C'est bon de pouvoir prendre une église. Et j'aimerais commencer ce message en vous disant que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous ce matin. Encore ? Encore pour une bonne nouvelle ou... Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devons passer un examen pour savoir si nous construisons l'église correctement. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de stresser. Parce que vous êtes déjà dedans. Peut-être cette notion d'examen vous surprend un petit peu. Peut-être vous êtes un petit peu remonté contre votre pasteur qui ne vous l'a pas dit avant. C'est possible. Si moi je ne vous l'ai pas dit avant, c'est que Jésus l'a dit aussi avant. Et quand je relis les textes de la Passion qui parlent du récit où on parle du jugement de Jésus, et puis Jésus qui est condamné à mort et qui ressuscite. Juste avant ce récit-là, Jésus donne un discours à ses disciples. On le retrouve dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc. Et ce discours comporte sur les temps de la fin, sur ce qui va se passer. Puis la dernière partie, Jésus dit à ses disciples, « Restez éveillés. Restez éveillés. » Jésus savait ce qu'il allait se passer ensuite, il savait certainement aussi ce que les disciples allaient pouvoir ressentir. Il leur a laissé ce mot d'ordre, restez éveillés. Et je crois que ce mot d'ordre n'est pas seulement valable pour les premiers disciples de Jésus, mais il est valable aussi pour nous aujourd'hui. Il était aussi valable pour l'église de Corinthe il y a quelques années en arrière. Alors comment est-ce que l'église de Corinthe a pris ce commandement, restez éveillés? Je peux déjà vous le dire, que leur examen ne se passe pas très très bien. Et je vous propose de rejoindre cette église de Corinthe au chapitre 3 de la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 3, et puis je lirai les versets 5 à 17. Qui est donc Apollos et qui est Paul ? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici s'arrête notre lecture. Voyez bien, l'idée d'un examen se confirme. Et ce verset 13 interpelle. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Alors ça, c'est notre examen, et d'emblée, j'aimerais clarifier un petit peu la consigne de cet examen. S'il y aura bel et bien un jugement, pour celles et ceux qui appartiennent à Christ, notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Autrement dit, si nous appartenons à Christ, lui seul a payé et garanti notre salut. Aucune œuvre de notre part ne peut ajouter, ne peut augmenter, ne peut diminuer l'efficacité du sacrifice que Christ a accompli pour nous à la croix. Ce jugement n'est pas un jugement qui va définir notre statut éternel. Si on va être auprès de Dieu ou non. Mais comme le texte l'indique, nous devrons rendre compte quand même de ce que nous avons accompli, notamment de la manière dont nous avons pris soin de l'Église, de la manière dont nous l'avons bâtie. Bonne nouvelle pour vous, les enseignants seront jugés plus sévèrement, d'après Jacques. Maintenant que la consigne de cet examen est rappelée, elle est un peu plus claire, je vous propose qu'on se penche sur ce que l'apôtre Paul a à dire à cette église de Corinthe. Les versets que nous avons lus décrivent finalement l'église. Paul décrit ce que c'est que l'église et comment est-ce qu'on peut servir dans l'église. Alors le petit contexte, c'est que les Corinthiens se disputent pour savoir qui est le plus important entre Paul, Apollos et Céphas. Paul n'entre pas dans ce jeu-là. Il n'est pas en train de les raisonner. Il a bien cerné le problème des Corinthiens. Le problème, c'est qu'au lieu de vivre dans la communion, ils laissent leur propre nature, leur propre désir prendre le dessus pour les diriger. Finalement, c'est leur rivalité qui donne la conduite de l'Église. Et Paul va remettre un petit peu les Corinthiens sur le droit chemin. Il ne va pas leur expliquer ce qu'il fait de faux, mais Paul va leur définir ce que c'est que l'Église. Et pour cela, il va utiliser trois images. La première, il va dire que l'Église est comme un champ. La deuxième, l'Église est comme une construction. Et la troisième image, l'Église est comme un temple. Alors je vous propose qu'on puisse regarder un petit peu ces trois images. L'Église est comme un champ. Comme je l'ai dit, l'Église de Corinthe se divise en différentes parties. Il y a ceux qui sont pour Paul, ceux qui sont d'Apollos, ceux qui sont de Pierre, de Céphas. Certains ont voté oui pour la 13e rente AVS, d'autres ont voté non pour la 13e rente AVS. Les Corinthiens se divisent pour des raisons toutes humaines. Et Paul défend qu'ils sont tous serviteurs de Christ. Vous êtes tous au service de Christ. Nous sommes tous au service de Christ, Apollos, Céphas et moi. Et on travaille ensemble pour la même œuvre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de superstar. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus d'un autre. Il y a seulement des serviteurs qui amènent les autres à Jésus. Des serviteurs qui amènent les autres à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et le but est le même pour tout le monde. Les versets 8 et 9 nous le disent bien, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun, et chacun reçoit sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. » Nous sommes dans la même équipe. Nous servons un même but. C'est-à-dire que Dieu nous invite à construire son Église ensemble. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur, des anciens. Alors oui, ils seront jugés plus sévèrement, je le répète, comme ça vous enlève aussi un poil vos épaules. Mais on est tous appelés à construire l'Église, selon nos dons, selon nos disponibilités. Et la compétition n'a pas lieu d'être. Le verset 6 nous dit... C'est Dieu qui fait grandir. Nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres. Moi, je fais plus que lui quand même. Lui, il n'en fait peut-être pas assez dans l'Église. Je ne dois pas rendre des comptes pour ce que l'autre fait, mais sur ce que moi, je fais. Selon nos dons, selon nos disponibilités. Et la croissance ne dépend pas de ce qu'on peut faire, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est finalement pas le temps qu'on passe à servir l'Église qui compte, mais c'est notre intention de cœur. Quelles sont nos motivations ? Pour une prédication, je passe entre 8 et 10 heures. Ça dépend, ça fluctue pas mal. Je passe entre 8 et 10 heures. Un café au bar est servi en 30 secondes. C'est juste, Anne-Marie ? Ça, voilà. Pratiquement, 30 secondes. Après, il y a les contacts. Pourtant, le service au bar est tout aussi important qu'une prédication, parce que ça dépend des contacts. Et peut-être pour certains, le café est plus important que la prédication, mais ça, je ne veux pas le savoir. Ce qui compte dans notre service, c'est notre intention de cœur. J'ouvre ici une parenthèse technique. Paul nous parle du chant. L'Église est comme un chant. Mais l'image du chant ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose que Paul invente comme ça en disant ben, « ça peut être bien, on verra quel écho ça va donner ». Cette image, elle vient de quelque part. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul connaissait très bien l'Ancien Testament, connaissait très très bien le judaïsme. Il faisait partie d'un des maîtres religieux du judaïsme. Donc il connaissait toute cette tradition aussi, des targoums, commentaires juifs qui expliquaient la Torah. Et puis, dans ces targoums, il y a une comparaison entre le temple de Salomon et un jardin. Certains commentaires comparent le temple de Salomon avec un jardin. Et puis, cette tradition, ces rabbins juifs, on s'appuie sur cette tradition dans l'Ancien Testament, comme quoi le jardin d'Éden est assimilé à un temple. Voilà, un peu parenthèse technique. Mais du coup, Paul, qui reprend cette métaphore du chant, pourrait nous laisser penser que Paul, au fait, compare l'église de Corinthe au temple de Salomon. Suggestion, peut-être. Et si creuser cet aspect du temple vous passionne, je vous invite à comparer, à lire 1 Roi 6 avec la description de la construction du temple et à relever toutes les notes de construction qui parle de tout ce qui est botanique, qui a un lien avec un jardin. Vous verrez qu'on parle de fleurs à plusieurs reprises dans la construction du temple. 1 Roi 6, voilà, si ça vous tente d'aller creuser à la maison, je ne vais pas le faire ici, pas maintenant, mais ça vaut la peine et c'est assez marquant de voir tous les éléments qui sont liés au domaine du jardin, au domaine de la culture, dans le temple que Salomon a construit. La deuxième image, l'Église comme une construction. Si l'Église est un champ, l'Église est aussi un édifice, une construction où Dieu envoie son maître d'œuvre et d'autres ouvriers pour construire cet édifice avec différents matériaux. Les Corinthiens travaillent à la construction d'une Église locale qui prospérera pour la gloire de Dieu et pour le bien de toutes les nations. Et quant à nous, ici à Cossonay, je me permets de dire que nous travaillons à la construction d'une église locale pour la gloire de Dieu et pour le bien de notre région. Amen. Amen. Voilà. J'aime quand il y a de l'engagement. Et parce que l'église est l'œuvre de Jésus, du Seigneur Jésus, c'est lui qui fait croître. La conséquence, c'est que chacun doit faire attention à la manière dont il construit sur le solide fondement. Bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue pour savoir sur quoi on va être bâti. Ce fondement de l'Église, Paul prend le temps de le rappeler aux Corinthiens. C'est tellement important. Ils se divisent, ils ne sont pas d'accord. Paul prend le temps de rappeler ce fondement. Ce fondement, c'est Jésus-Christ et sa crucifixion. Et puis on a lu, ceux qui suivent la méditation « Un mois pour aimer Pâques », il y a quelques jours, on a lu ce verset de 1 Corinthiens 2 où Paul dit « Je ne veux savoir qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ». C'est ça le fondement, c'est l'Évangile. Aucun autre point de départ n'est acceptable devant Dieu. Et je crois que si nous avons un autre fondement que Jésus, que sa parole, nous aurons une église assez bancale. Ce matin, je me permets de vous le rappeler, je souhaite pour notre église ici à Cossonay aucun autre fondement que la parole de Dieu, que le glorieux message de l'Évangile. Christ est mort est ressuscité pour sauver des pécheurs tels que nous. Et Jésus-Christ reviendra victorieux pour établir son règne éternel. Et c'est ça notre fondement. C'est ça notre raison d'être, notre raison d'exister. On n'a pas besoin de réinventer cela. Paul rappelle ce fondement. Et une fois que ce fondement est rappelé, il pose la question finalement, comment est-ce qu'on va construire sur ce fondement? Et là, c'est là qu'on entre aussi en contribution, où on peut chacun amener notre pierre à l'édifice. Et Paul accorde une certaine importance à la manière de construire l'Église, notamment au travers des matériaux utilisés. Plusieurs matériaux sont utilisés dans le texte. Il y a du bois, de la paille, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Certains d'eux résisteront au feu, d'autres pas. Est-ce que Paul utilise une liste arbitraire pour ces matériaux? Non. On retrouve les plus nobles de ces matériaux dans la construction du temple de Salomon. Si je prends 1 Chronique 29, dès le verset 2, « J'ai pourvu pour la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent, du bois et des pierres précieuses. » Paul utilise les mêmes matériaux pour parler de l'église de Corinthe. Comment est-ce qu'on construit l'église de Corinthe? Il y a juste la paille qui est ajoutée en plus. Mais certainement que la paille n'est pas quelque chose de très très positif, qui est durable, surtout quand il y a du feu. Cette manière de construire ces différents matériaux nous renvoie finalement à nos motivations, à notre attitude de cœur. Est-ce que c'est la rivalité qui nous motive à bâtir l'Église? Est-ce que c'est des motifs autres que l'avancée du royaume de Dieu qui motive notre service dans l'Église? Si c'est ça, c'est comme de la paille. Il y a un danger, c'est quand le feu arrivera, quand le jugement arrivera, il ne restera pas grand-chose. Paul nous avertit attention à la manière de construire l'Église. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve. Et le feu indiquera ce que l'œuvre de chacun vaut. Quand Paul cite ce texte, il a à l'esprit certainement un autre texte du prophète Malachie. Malachie nous dit ces choses suivantes dans les trois premiers versets du chapitre 3. Malachie commence et dit « Voici, j'enverrai mon messager pour préparer le chemin. » Et soudain, il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Malachie nous parle aussi de jugement, mais Malachie nous dit aussi le but de ce jugement. Toutes nos œuvres passeront au crible, au feu, mais pas dans le but de nous condamner, dans le but de nous purifier, dans le but de purifier nos œuvres. La troisième image que Paul nous donne, c'est que l'Église est comme un temple. Et il ouvre cette image avec une question rhétorique, comme s'il reprochait quelque chose aux Corinthiens. « Mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et Paul choisit ces mots avec soin quand il écrit sa lettre. Sa connaissance de l'Ancien Testament, du judaïsme n'est plus à prouver. Et Paul choisit ces mots avec soin, notamment quand il parle du mot « temple ». Le mot grec qui est utilisé dans le texte, c'est le mot « naos ». Il y a un autre mot pour désigner « temple », dans le sens générique, mais le mot « naos » désigne souvent le sanctuaire intérieur du temple, le lieu très saint. Alors imaginez quel impact cette lecture devait avoir sur les premiers lecteurs. Et pour nous aussi. L'Église locale est comparée au lieu très saint du temple de l'Ancien Testament. Paul n'hésite pas à reprendre le même mot pour parler du lieu très saint du temple de Salomon avec l'Église locale. L'Église de Corinthe est une création spéciale et sainte de Dieu. Et l'Église de Cossonay est une création spéciale et sainte de Dieu. On réessaye ? Amen ? Voilà. N'est-ce pas incroyable ce que Paul fait là? Comparer les institutions de l'Ancien Testament, le lieu très saint du Temple, à l'Église locale. Il y a une ouverture, une progression. Et un commentateur ajoute ceci. De même que Yahvé résidait dans le Temple sous l'Ancienne Alliance et en Israël, de même l'Esprit de Dieu habite maintenant dans le nouveau Temple, l'Église de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu habite dans l'Église locale. On peut y aller aussi. Amen. Voilà. Imaginez un petit peu la réaction des premiers chrétiens, des premiers lecteurs, des croyants juifs qui avaient toute la tradition de l'Ancien Testament derrière eux, des païens qui connaissaient certainement un petit peu aussi. Imaginez cette révélation. L'Esprit de Dieu n'est plus seulement dans le temple, mais plus largement dans l'Église locale. Et ça n'a pas changé en 2000 ans. Le Dieu souverain habite maintenant un petit peuple insignifiant, j'oserais même dire sans défense, l'Église n'a pas d'armée. Dieu habite dans ce peuple insignifiant qu'est l'Église. Et grâce à lui, elle subsiste encore aujourd'hui. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, c'est réjouissant. Mais il y a aussi des conséquences désastreuses pour celui qui s'attaque à l'Église. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est cash, c'est clair. Ces mots devraient nous couper le souffle, nous inciter à une réflexion approfondie. En tant qu'Église, notre mandat n'est pas de ressembler au monde, où on détruirait petit à petit l'Église. Ce n'est pas du conformisme où on est appelé. L'Église locale, nous sommes ceux que Dieu a choisis. Et chose étonnante, Dieu a choisi de vivre parmi son peuple, l'Église. Quelle bénédiction, quel privilège pour nous, mais aussi quelle responsabilité. Nous devons donc bien construire l'Église. Vous avez dit au début, nous étions en examen. Peut-être vous avez douté. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair. On est en examen. Pas pour nous mettre la pression, mais plutôt c'est réjouissant de s'inscrire dans l'œuvre que Dieu fait et Dieu habite au milieu de nous. Et conscient de cela, conscient que nous sommes un temple, nous pouvons bâtir l'Église. L'objectif qui est devant, sur pourquoi est-ce que nous bâtissons, c'est la gloire de Christ à laquelle nous participerons un jour. Ce matin, l'équipe du bar à café a tiré plusieurs cafés. Merci Robin pour le café. Tirer un café ce matin, c'est pas anodin. C'est peut-être un pas de plus vers cette glorieuse réalité du royaume de Dieu. Comme tu l'as dit, Anne-Marie, il y a le contact. Il ne s'agit pas de s'investir énormément dans l'Église, mais peut-être une phrase bien placée à une personne. C'est peut-être ça, construire l'Église aujourd'hui. J'aurais quelques questions à vous poser, mais qui méritent réflexion. Alors je vais vous les livrer en conclusion sur notre manière de construire l'Église, et je vous invite à prendre l'une ou l'autre de ces questions, ou les trois, peut-être à les photographier, et puis à vous les poser dans la semaine qui vient, peut-être à en discuter lors d'un repas en famille. Voilà ces questions. Quel rôle le Seigneur vous a-t-il donné pour servir l'Église? Est-ce que vous le remplissez bien? Deuxième question, comment l'expression « Mais Dieu seul donne la croissance » vous libère-t-elle du fardeau de produire des résultats? Et dernière question, les chrétiens devraient-ils être motivés dans leur ministère par les récompenses que Dieu promet? Pourquoi ou pourquoi pas? Je vous laisse avec ces questions. Prenez le temps d'y réfléchir, je pense qu'il y a une bonne réflexion, ouais, un bon temps d'introspection, de réflexion sur ce chapitre de l'Épître aux Corinthiens vous attend. Merci.